Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour. Dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, je vais vous parler cette semaine des va-t-en-guerre. Il y en a plusieurs récemment qui se sont exprimés et qui, avec des propos et des attitudes particulièrement inquiétantes. Alors, tout d'abord, la nouvelle première ministre du Japon, ultra-nationaliste, proche de Donald Trump, c'est déjà tout dire, qui allume la mèche. Sanae Takaishi, si je ne déforme pas son nom, menace la Chine. Elle dit que Taïwan est menacée et entend agir militairement en tant que Japon. Elle sert ainsi la soupe à Donald Trump qui, lui aussi, ambitionne de se servir du prétexte de Taïwan pour faire monter d'un cran le conflit, voire la guerre plus tard, en direction de la Chine, puisque le vrai problème, c'est pas Taïwan, le vrai problème, c'est le fait de la suprématie économique de la Chine. Il faut le redire, Taïwan, d'après toutes les conventions internationales et depuis fort longtemps, fait partie de la Chine. Alors ça, voilà pour ce que ces dispositions qui sont déjà prises au niveau du Japon à l'encontre de la Chine. Donc ça, ça sent pas bon. Mais ça sent pas bon non plus en France, puisque le chef d'état-major des armées a fait, vous l'avez tous entendu, un discours devant l'Association des maires de France, ce qui est déjà original en soi à double titre. Le fait qu'il s'exprime en public, ces gens-là en général s'expriment jamais, et le fait qu'il soit invité à cette association des maires de France pour donner des informations politico-militaires. Donc ça, c'est très original. Et c'est là qu'il a donné une version de la situation nationale et internationale pour dire qu'il faut accepter, je cite, « de perdre ses enfants, de souffrir économiquement », puisque c'est pas seulement perdre ses enfants, c'est des sacrifices dans tous les domaines. C'est ce qu'il a dit. La ficelle est un peu grosse de cette invitation, déjà. Et au fait aussi que ces propos ont obligatoirement été préparés avec la présidence de la République. Ces gens-là ne s'expriment pas tout seuls sans qu'il y ait eu un aval dans le domaine. Alors cette opération de com', on peut dire quoi ? On peut dire d'abord qu'elle est scandaleuse. Tout d'abord sur le message délivré, sur le contexte général, il faudrait se préparer à la guerre et la Russie menacerait la France. C'est de la désinformation qui reprend les fantasmes de l'époque de la guerre froide, je vais en dire un peu plus. En dehors d'une guerre nucléaire où il n'y aurait d'ailleurs que des perdants, il n'y aurait pas de gagnants dans une guerre nucléaire, la Russie ne peut pas s'en prendre à l'Europe aujourd'hui, l'Europe de l'OTAN qui représente tout de même plus du double avec d'habitants, presque trois fois plus. En plus, si on compte aussi la Turquie qui est membre de l'OTAN contre un pays, la Russie, qui est aujourd'hui un pays de taille moyenne, on peut le dire comme ça, avec 145 millions d'habitants. Sa population, pour se faire une idée aujourd'hui, bien que ce ne soit pas le seul critère, mais c'en est un tout de même, est inférieure à des pays comme l'Indonésie, le Pakistan, le Nigeria, le Bangladesh et d'autres. Évidemment, ce n'est pas le seul critère, mais ça donne quand même une idée. Il faudrait aussi qu'il y ait un motif, un mobile, indépendamment donc du rapport de force tel qu'il est aujourd'hui, je viens de le dire, près de trois fois plus de population dans le reste de l'Europe, et qu'il y ait un motif qui n'existe pas aujourd'hui. Si je le dis, c'est parce qu'on oublie, dans ces grands médias, que le motif de la guerre en Ukraine, bon ou mauvais, je le répète, bon ou mauvais, est bien réel. C'est l'existence d'une population qui se dit russe, on n'a pas ça en France, à ma connaissance, dans tout l'est du pays, et qui se dit persécutée, notamment par l'interdiction, notamment de parler leur langue, le russe. Donc il y a une raison, je le répète encore, bonne ou mauvaise, mais il y en a une. Ensuite, il est inacceptable d'entendre du chef d'état-major des armées dire, comme il l'a dit, qu'il faudrait accepter de perdre ses enfants. Il a également dit qu'il faudrait accepter de faire des sacrifices sur le plan économique. On est vraiment dans un mauvais film. La seule bataille qui vaille est celle d'agir pour la paix. Pour nous plonger dans cette psychose et l'acceptation de l'idée de la guerre, Macron confirme l'envoi dans tous les foyers d'un manuel de survie. Pour en rajouter, hein, c'est ce qui était déjà prévu au printemps et qui va se faire probablement dans les semaines qui viennent, pour en rajouter à cette psychose. Et il relance en même temps le sujet de la conscription pour remobiliser les médias et en créer tout ça dans nos têtes. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Eh bien, pour l'essentiel, c'est nous faire oublier la politique intérieure du pays, nous faire accepter la régression sociale, c'est dit en clair dans le discours du chef d'état-major, argumenté pour l'occasion donc par l'effort de guerre qui devrait passer avant le reste. Pendant ce temps-là, il y a le gel des salaires dans de nombreux secteurs, la réduction des budgets sociaux, la précarité des emplois qui progresse et le dérèglement climatique qui passe complètement à l'arrière-plan. Alors je reviens sur ce sujet de l'Ukraine. On voit que Trump veut se débarrasser du dossier ukrainien. C'est un constat. Certainement pour se concentrer sur la Chine et le Venezuela, pour lequel il a des motifs guerriers. Il propose un plan de paix qui semble avancer des deux côtés. Et c'est là que la France et l'Europe dénoncent ce plan de paix qui n'en veulent pas. La France ne veut pas du plan de paix à Trump. Alors Trump, c'est pas un copain, mais les seuls qui ont le droit de décider et de l'apprécier, c'est pas nous. C'est pas non plus les États-Unis d'ailleurs. Mais ce sont les Russes et les Ukrainiens, les seuls légitimes pour décider de ce qui est acceptable. On nous explique que nous aurions notre mot à dire, puisque ce serait l'Europe, et que l'Ukraine serait en Europe. En fait, on mélange tout, puisque l'Europe politique, eh bien, l'Ukraine n'y est pas, et pour ce qui est de l'Europe géographique, qui n'est pas du tout la même, qui s'étend jusqu'à la limite avec l'Asie, c'est-à-dire 1000 km après Moscou tout de même, celle dont on ne parle jamais, finalement, ça revient à dire que défendre l'Europe, ce serait aussi défendre une bonne partie de la Russie qui se trouve dans cette Europe géographique et Moscou aussi qui se trouve dans cette Europe géographique. Évidemment, on ne raisonne jamais comme ça. Alors j'en reviens donc à cette Europe politique avec des frontières différentes qui se terminent grosso modo à la hauteur de la Pologne, de la Roumanie et de la Bulgarie. Eh bien, cette Europe politique, il faut se rappeler que l'Ukraine qui avait fait des démarches pour y entrer il y a quelques années a reçu finalement un refus au niveau des Européens tels qu'ils sont aujourd'hui. Et je cite le motif, tout de même officiellement, du motif d'un fort taux de corruption à tous les niveaux. Et on peut dire que ce motif qui était tombé il y a quelques années est particulièrement d'actualité, alors que le bras droit de Zelensky, son chef de cabinet et connu comme étant son bras droit, vient de se faire attraper pour corruption. Et quelques jours auparavant, on l'oublie vite, le ministre de l'Énergie et le ministre de la Justice, rien de moins, ont été contraints de démissionner aussi pour motif de corruption. Donc, quelque part, l'Ukraine, c'est tout de même pas le pays idéal qui a tous les critères pour entrer dans l'Europe politique. Et pendant ce temps-là, que sont ciblés comme adversaires la Chine, on fait monter les choses en puissance, la Russie, est passé sous silence l'attitude d'Israël, dont on ne parle plus, qui poursuit le massacre des Palestiniens, qui va bombarder les camps de réfugiés au Liban, etc. Et ça continue, les massacres et la logique génocidaire se poursuit. Est passé aussi sous silence les actes guerriers des USA à l'encontre du Venezuela, dont les ressources en pétrole sont immenses, ce qui est le véritable motif du conflit entre le Venezuela et les États-Unis, puisque le Venezuela a nationalisé et donc expulsé les multinationales du pétrole pour conserver ce pétrole comme étant la propriété du pays. Voilà un petit peu rapidement dit, mais tout de même, c'était suffisamment important pour en parler. C'est pour ça que j'ai voulu refaire, je l'avais déjà fait, mais une chronique sur ce sujet. Il ne faut jamais perdre de vue que les guerres ne sont pas menées pour le bonheur des peuples, mais pour des motifs de domination économique, on le voit par rapport à la Chine, pour la propriété du sous-sol, on le voit sur l'est de l'Ukraine, c'est également vrai, et surtout pour le Venezuela, pour la maîtrise des voies de communication au large de la Chine, c'est exactement le cas, et pour la colonisation qui rejoint finalement l'ensemble de ces domaines, et c'est vrai par rapport notamment à la Palestine. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine. Je reviendrai sur des sujets plus locaux prochainement, mais bon, comme je viens de le dire, c'est suffisamment important pour en parler. À la semaine prochaine.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier. À retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Cléus.
Le public de jardin de ma tante.
Oh, pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour. Oh.